Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.
Boom, 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 boom.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table.
I can't get no satisfaction.
Give me a reason to love you.
France Culture. La série musicale Zoé Sfez.
Et aujourd'hui, une mission grain de femme. Depuis les débuts de la musique enregistrée, il y a presque un siècle, les voix de chanteuses que nous écoutons n'ont cessé de changer de style, de timbre, de phrasé. Et ce sont ces voix qui ont donné à chaque époque leur couleur. Pourquoi les voix de Rossignol des années 30 nous paraissent aujourd'hui si loin de nous? Qu'est-ce que le vocal fry? Pourquoi s'est-il imposé ces dernières années aux États-Unis? Que nous reste-t-il des chanteuses à voix des années 90? Certaines nous paraissent follement démodées alors que d'autres ont si bien survécu, mais en réalité toutes ont des héritières, ont joué de ressorts que les chanteuses de 2021 continuent d'utiliser et qui nous parviennent comme des échos où l'histoire se répète. Petit récit, aujourd'hui, au-delà des genres musicaux, des tessitures, un récit forcément non exhaustif et largement subjectif de ces voix qui toutes nous racontent quelque chose à la fois de notre oreille, mais bien sûr aussi de la place des femmes dans la société.
J'ai deux amants, c'est beaucoup mieux, car je fais croire à chacun d'eux que l'autre est le monsieur sérieux.
Un rossignol ne fait pas le printemps, affirme un proverbe, mais par contre, Mademoiselle Printemps fait très bien le rossignol. Quelle voix pure, cristalline, si joliment timbrée, si adroitement conduite, écrit un critique dans la revue Comédia. On est au cœur des années 20, et Yvonne Printemps est l'une des femmes qu'on entend le plus en France. Née à la toute fin du 19e siècle, sa voix, son phrasé, sont en fait le pur produit de son époque. Cette blonde, sublime, abandonnée par son père et contrainte très jeune de gagner sa vie, débute sans formation aucune sur les scènes de ce qu'on appelle alors le music hall, et forte d'un succès qu'elle doit tout autant à son tempérament de feu et à ses jambes interminables qu'à son timbre de soprano léger, naturel, elle se perfectionne en cours de route chez un maître de chant réputé et s'impose à l'opérette grâce à sa maîtrise inouïe du legato, à l'opérette comme dans la chanson. Deux genres qui sont en fait parfaitement solubles à une époque où les carrières se jouent essentiellement sur scène, sans sonorisation, et où les voix de femmes sont encore tributaires de près de 400 ans d'art lyrique. Et s'il existe quatre tessitures chez les femmes, ce sont les sopranos, le registre le plus aigu de tous, qui dominent très largement le répertoire lyrique. Pourquoi ? Nous y reviendrons, sans doute, mais ce qui est certain, c'est qu'au cours du XXe siècle, la tessiture moyenne de ce qu'on écoute à la radio, dans les salles, et puis bientôt en streaming, ne va cesser progressivement de baisser, à part à quelques moments. C'est bien sûr tout sauf anodin. Et ce mouvement, en fait, il est déjà à l'œuvre, exactement au moment où Yvonne Printemps déploie ses aigus pour célébrer ses amants. De l'autre côté de l'Atlantique, quasiment la même année, une autre femme est en studio, et elle chante la misère et la perte de ses amis.
Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one penny, and my friends, I haven't any. But if I ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt, nobody knows you when you down and out. I mean, when you down and out.
Nous sommes en 1923, à peu près la même année qu'Yvonne Printemps, qui chante ses amants. Et nous écoutons celle qu'on surnomme déjà l'impératrice du blues. Bessie Smith, native du Tennessee, a alors une trentaine d'années. Elle chante aussi, elle, pour survivre, depuis qu'elle a 9 ans. Mais c'est bien en imposant cette voix très grave, rauque, voire cassée, rugissante, pétrie d'un phrasé qui, lui, est très proche de l'oralité, celui du blues, qu'elle s'est imposée comme la chanteuse afro-américaine la plus prolifique de l'époque en studio et la mieux payée, $2000 par semaine. C'est énorme. Bessie Smith est puissante, ouvertement bisexuelle, ne se mariera jamais, et sa voix est à son image. Elle est en fait la matrice de tout un courant qui, tout au long du XXe siècle, se réclamera de son héritage, qui va de Janis Joplin, qui paya sa pierre tombale, à Colette Mani.
Einstein, Tchekhov, Héraclite Lamennais, Lénine Souriau.
Choisis ton opium, Dieu est subtil, mais pas malicieux. Tu n'as pas voulu imiter, tu es esclave.
Et bon, bah, j'ai jamais étudié, je déteste ça. Mais j'ai, comment dire, je vais pas jouer les innocentes comme ça, par la pratique, disons, sur 26 ans, hein, par la pratique, j'ai quand même probablement appris des choses.
Printemps, je désire vraiment que dans l'autre monde, il y ait un paradis.
Mais le travailler la voix, je sais pas, j'ai pas eu envie, rien du tout. Enfin, j'ai la chance d'avoir un timbre intéressant, il paraît. Un timbre intéressant, puis quoi Et oui, elle lui chante juste naturellement, donc pas de travail à faire. Voilà. Et pas tant. J'étais peinard jusqu'à maintenant. Jusqu'à cette année.
Moi, quand je vois le printemps, je désire vraiment que dans l'autre monde, il y ait un paradis. L'âme vivante du marxisme, l'analyse concrète d'une situation concrète te sera à jamais.
Bon, oui, ben ma voix, je ne sais pas la décrire, moi j'en sais rien. J'ai un timbre inhabituel. Je ne sais pas, enfin bien quoi, un timbre intéressant. Parce qu'Hélène Delaveau, vous connaissez peut-être, chanteuse lyrique, elle me dit, elle écoute, je ne sais plus quoi ce que j'avais fait, elle me dit, oh, est-ce que tu as une belle voix? Je lui dis, oh, bah, pourquoi tu me dis ça? Je veux dire, des belles voix, il y en a plein. Enfin, je veux dire, des dames qui chantent en classique, il y a plein de... Mais il paraît que ces histoires de timbre ou de je ne sais pas quoi, on a un beau timbre ou pas un beau timbre, ça c'est vache. Hein.
Choisis ton opium, Dieu est subtil. Mais pas malicieux.
L'inénarrable Colette Mahony qui revendique son statut d'autodidacte parce qu'en fait elle fut longtemps secrétaire à l'OCDE et elle n'est sortie de l'anonymat qu'à 38 ans en publiant ce premier album de blues en français. Et elle doit tout à ces chanteuses des années 30 qui ont éduqué son oreille et son timbre. Oui, c'est vrai qu'a-t-il ce timbre? Il est unique, certes, car comme l'explique le phoniatre Gilles Abitbol, il y a 7 milliards d'humains et il y a 7 milliards de paires de cordes vocales, qu'on dit aussi plis vocaux, organes étranges faits de cartilage et de muscles, qui produisent en entrant en contact des sons absolument différents et distinctifs pour tout le monde. Des cordes vocales qui sont plus courtes chez les femmes, 17 à 18 mm contre plutôt 22 pour les hommes, qui vibrent donc plus vite et qui atteignent plus facilement les aigus. De fait, les voix très aiguës sont les plus dynamiques. C'est ça qui plaisait à l'époque d'Yvonne Princeon. C'est ce qui les rend si efficaces et attrayants à une époque où la prise de son et l'amplification sont quasi inexistantes. Avec l'avènement de la sonorisation, le perfectionnement de l'oreille commence à préférer le grave, y compris chez les femmes. Les plus grandes stars du cinéma parlant se sont imposées grâce à leur velours vocal, Greta Garbo, évidemment, et Marlène Dietrich. Pourquoi? Alors que c'était l'apanage des hommes, y compris dans le chant. L'une des raisons, et ce n'est pas la seule, explique toujours Gilles Abitbol dans son livre « La voix des femmes », c'est le souvenir de la voix maternelle qui s'adresse au fœtus. Cette voix, elle était rendue plus grave, plus suave, car transmise par le liquide amniotique au travers de lequel l'enfant la saisissait. D'une façon inconsciente, d'une façon principielle, originelle, le grave chez les femmes aussi, chez les femmes peut-être surtout, nous rassure et évidemment nous séduit.
Thank you.
La voix immortelle de la diva égyptienne Oum Kalthoum est une voix de contralto. C'est la tessiture la plus grave chez les femmes. C'est en suivant son père, imam, dans les cérémonies religieuses et en interprétant les chants coraniques déguisés en garçon qu'elle a formé cette voix si riche, si féminine et en même temps presque androgyne. Et alors qu'elle triomphe au Caire, mais aussi en France, où elle fait salle comble à l'Olympia et fait même la conquête de Charles de Gaulle, deux archétypes de voix féminines dominent alors en Occident, dans les années 50-60. Toutes les deux sont plus ou moins directement reliées au jazz, un genre qui s'est imposé absolument partout. Le premier, identifié par la sociologue Marie Buscato dans son livre « Femmes du jazz », eh bien, le premier, c'est celui de la femme suave, aux sonorités graves et profondes, immédiatement et naturellement séduisante. Il est une chanteuse qui, tout en maîtrisant ses codes, va pousser le curseur un peu plus loin, jusqu'à brouiller les genres et à y gagner une forme d'immortalité. Elle s'appelle Nina Simone.
So wild is Daddy, you'll spring to me all things to me.
Wild is the Wind, summum de la longueur, date de 1965. On l'a compris, c'est sans doute parce qu'elle brouille les cartes plus que jamais que Nina Simone a su conquérir un auditoire qui va au-delà de celui du jazz. Et ce n'est pas par hasard d'ailleurs si Wild is the Wind sera repris plus tard par un homme qui lui aussi aimait jouer avec le genre, David Bowie. Mais revenons-en à l'autre grand type de voix défini comme archi-féminin dans les années 50. C'est celui de la chanteuse de jazz virtuose qui sait faire preuve d'une très grande amplitude vocale. Au sein d'un milieu professionnel très saturé, hiérarchisé et hautement compétitif, les musiciennes de jazz dans leur ensemble devaient alors faire preuve d'une très grande capacité d'adaptation, voire se conformer à des codes dits masculins pour intégrer des réseaux de socialisation qui vont leur permettre de développer leur activité, explique toujours Marie Moscato. Ces deux stéréotypes, la chanteuse suave, séduisante, et la chanteuse virtuose, s'incarnent souvent dans une seule et même chanteuse. C'est évidemment le cas pour les noires américaines maîtresses du genre que sont les immenses Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan, mais aussi de quelqu'un comme Mina, qu'on connaît peut-être moins bien en France. Diva italienne dont Louis Armstrong a dit un jour qu'elle était selon lui la seule femme blanche à savoir vraiment chanter. Lancée à la fin des années 50 comme une simple chanteuse yéyé, Mina s'est ensuite affirmée comme une soliste hors pair digne des plus grands orchestres. Tous les soirs, les Italiens l'attendaient sur la chaîne principale, Rai Uno. Séduisante, séductrice, la plupart de ses chansons s'adressent à un homme italien alpha, où elle le séduit tout en revendiquant sa liberté. Elle s'impose finalement au début des années 50 avec des textes qui évoquent pour la première fois l'orgasme féminin et manque de se faire radier de la télévision publique car elle a eu un enfant hors mariage. Mais c'est bien sa virtuosité absolue qui la sauve. Elle ne boude pas son plaisir comme le montre ce morceau écrit précisément pour elle où sa bravoure vocale fait taire tous les bien-pensants.
Non è proprio tutto giusto, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il drillo, stanco per sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Brava, brava, come sono brava, brava. Certo se qualcuno vuole proprio, proprio pignolare, forse qualche cosa non so fare, ma sicuramente sì. Non può essere che una cosa che non ha nessun valore se vogliamo ricordare che come me nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il drillo, vedi ricordate quelle note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su.
Su, 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 come due note che volano nel cielo. E tutti sanno che ho tanto di quel fiato che neppure una balena può resistere sott'acqua stando senza respirare.
Che son brava sì, ma che a dirlo siate voi. Voi non lo sentite questo povero mio cuore che fa bom, 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 bom.
Il y a peut-être quelque chose d'Yvonne Printemps dans ce Brava de Mina, mais une Yvonne Printemps qui se serait virilisée par sa propre puissance. Les années 60 apportent des bouleversements majeurs, aussi bien sur le plan technique qu'évidemment dans la société, et même dans le genre qu'est la grande musique. C'est le moment des expérimentations les plus fun dans ce qu'on appelle la musique contemporaine. Et une figure s'impose qui va beaucoup faire pour la voix des femmes. C'est celle de Cathy Berberian, artiste lyrique des mieux formés, qui considère la voix, et notamment la voix des femmes, comme un instrument aux possibilités insuffisamment explorées jusque-là et qui sont pourtant illimitées. Sa technique hors du commun, sa sensibilité presque universelle et sa présence scénique très charismatique vont être mises à profit par les compositeurs les plus novateurs de leur temps, Henri Pousseur, John Cage et Luciano Berio, qui est son époux. Cette américaine d'origine arménienne s'impose sur les plus grandes scènes lyriques avec des objets de recherche extrêmement étranges, comme ce Strapsody, dont le titre fait référence aux comic strips américains et à la Rhapsody, forme musicale la plus libre, où elle déploie autant que faire se peut tout ce que peut sa voix, mais aussi tous les sons qu'en tant que femme et chanteuse lyrique, elle entend s'approprier et faire sien.
She's got a ticket to ride. The weather tomorrow with mostly cloudy. Sun. Knock, knock. Oh, zwack. Grunt, sniff, glab, zbroom, crumb, hiss, rumble, zbam, zbrank, shrank, at the shrap, slap, gallop. Honk, honk, honk.
Si le très grand public connaît peu aujourd'hui le travail de Cathy Berberian, en fait il a été crucial dans l'avènement d'un courant dans lequel vont s'engouffrer beaucoup d'autres chanteuses et notamment une femme immédiatement après, elle s'appelle Meredith Monk. Dans les années 70, elle va faire éclater tous les formats. Dutée d'une voix de soprano décrite pas comme transparente, elle a un très large ambitus de 3 octaves et son travail, qui évoquait dans un livre à paraître très bientôt, Meredith Monk, La voix mystique, aux éditions Le Mot et le Reste. Son travail poursuit celui de Cathy Berberian, utilise tout de la voix de la femme, du chuchotement au cri, au grognement, en passant par les sanglots et le chant diphonique. Une quête nécessaire, parfois rattachée au courant minimaliste, puisqu'on utilise la répétition d'éléments, mais au contraire des travaux de Steve Reich ou de Philip Glass, la répétition n'est jamais utilisée comme structure, mais bien comme accompagnement et tremplin pour la voix chez Meredith Monk, car dit-elle, chaque femme doit pouvoir trouver la sienne.
Ça concerne vraiment plutôt des recherches sur ma propre voix, mon propre langage, ma propre étendue, ma propre étendue émotionnelle, capacité physique. C'est pour ainsi dire s'exploiter soi-même comme une mine, comme un matériau. Et ça aussi, c'est un processus très féminin. Je ne dis ni féminine, ni politique, mais féminine. Je pense que les femmes, et c'est très lié à l'éducation, mais là où elles en sont maintenant, même si elles changent beaucoup en ce moment, c'est la manière dont elles procèdent. Je pense que les femmes font confiance à ce qui est en elles, plus que les hommes. On apprend aux hommes à ne pas s'écouter eux-mêmes, à toujours être en rapport avec la société. Ils n'écoutent pas ce qu'ils sentent, ce qu'ils entendent ou ce qu'ils pensent. Et que, cet approfondissement de la réalité intérieure, du paysage intérieur, ça se reflète simplement dans la musique, comme processus de travail. Et ça, on pourrait dire que c'est un processus très féminin.
So still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above, simple, is caving in. Wow, wow! You never been so nuts about a guy. You wanna love, you wanna cry, you crush your heart and hope to die till it's over and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again shh, shh, starts another big riot.
De Björk, la chanteuse islandaise immédiatement reconnaissable et qui est, vous l'aurez compris, l'héritière absolument directe de Meredith Monk et de Cathy Berberian. Car ces femmes ont permis de faire émerger ce que la sociologue Cécile Prévost-Després identifie comme la voix instrument, qu'on retrouve dans toutes ces techniques vocales développées par plusieurs artistes féministes depuis une trentaine d'années qui appartiennent non pas au registre de la musique contemporaine ou savante, mais bien à la musique dite populaire, et qui a permis de donner un nouveau souffle à cette esthétique très conventionnelle de la chanson dite féminine. Super du texte, la voix devient aussi un instrument. La voix parlée et la voix chantée se confondent, et une chanteuse française est très emblématique de cette nouvelle voix pour la voix, qu'elle double par ailleurs d'une exploration de la percussion corporelle, Camille, qui chante ici la rue de Ménilmontant.
Je rêve à toi, à mes heures perdues. Hélas, ça m'importe ce matin. La rue est morte, l'hôtel est quoi? Les volets rabattus. Dans la cour d'école, un peu plus loin, les oiseaux se sont tus. Ta la la. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da. Je rêve à toi, à mes heures perdues. Si j'en crois la poste ce matin, tu ne reviendras plus. La-la-la, 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 la-la-la. Il pleut sur les jardins à l'envi, sur les roses de la nuit. Il pleut des larmes de pluie. Il pleut et j'entends le clapotis du bassin qui se remplit. Oh mon Dieu, que c'est joli la pluie.
Quand Pierre rentrera, il... tiens, il faut que je lui dise que le toit de la remise a fui. Il faut qu'il rentre du bois car il commence à faire froid ici.
De nuit qui fuit, que
ciel, le feu et l'ombre qui se glisse jusque moi sans bruit.
Le fredonnement de l'immense Barbara, dont Pierre, chef-d'œuvre de la chanson française, auquel une chanteuse comme Camille, qu'on entendait juste avant, doit sans doute autant qu'à Meredith Monk. Car l'un des autres tournants que marquent les années 60 et qui vient ringardiser les grandes virtuoses vocales, eh bien, il vient aussi du développement du micro. Les femmes s'autorisent enfin à parler, à susurrer. Elles n'ont plus à avoir ce qu'on appelle une voix. Pour avoir des choses à dire et pour avoir à les chanter. Un courant fondamental, quoique évidemment fragile, est en train d'être ici. Le rapprochement entre voix parlée et voix chantée, la voix de l'interprète peut porter la parole d'un texte, d'un message, d'un discours, en se faisant directement ou implicitement porte-parole d'autrui, d'une émotion. En ce sens, le porte-parole est véritablement synonyme, en psychanalyse, d'interprète, entendu comme la personne qui est chargée de faire connaître les sentiments, les volontés d'une autre. Cette nouvelle voix permet aussi, grâce évidemment au micro et à ce qu'il sait capter, eh bien de montrer la fragilité. Cet air permet le sacre d'une toute jeune autrice-compositrice qui dit à qui veut l'entendre qu'elle n'a pas de voix, qu'elle n'a pas de présence scénique. D'ailleurs, elle souffre de se donner en concert et elle pratiquera son métier de plus en plus en studio. Elle impose néanmoins un style, une présence qui va faire d'elle l'une des Françaises les plus aimées à l'étranger. Elle va surtout imposer un droit à la vulnérabilité qui va s'avérer infiniment précieux pour toutes les générations de chanteuses à venir, particulièrement en France, de Charlotte Gainsbourg jusqu'à Angèle. Elle s'appelle Françoise Hardy.
Au bout du téléphone, il y a votre voix et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive. Attendez-moi. Nous allons nous connaître. Préparez votre temps. Pour vous, j'ai tout le mien. Je voudrais arriver. Je reste. Je me déteste. Je n'arriverai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je devrais vous parler. Je devrais arriver. Ou je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd. J'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. viens en toi. Si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème et cours et cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène. Viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi.
Le dégoût de la vie vient en toi, chante Françoise Hardy en 1973. Dans ce texte et cette chanson écrite pour elle par Michel Berger, mais dont elle a rédigé en une nuit le texte d'introduction. Le dégoût d'une certaine couleur du monde va s'imposer dans la décennie suivante, les années 80, qui vont émerger deux genres qui très vite vont contaminer la voix des femmes, ou plutôt dont elles vont, plutôt difficilement d'ailleurs, se saisir. Le mouvement punk trouve une superbe interprète, une superbe héroïne dans la personne d'une jeune chanteuse allemande. Même si elle porte dans sa voix le No Future, elle a bien un passé, c'est ça qui est intéressant. Son beau-père s'appelle Wolf Biermann. Il a été chanteur, dissident, en RDA, et sa mère est une chanteuse réaliste. Après avoir chanté Janis Joplin pour débuter, elle découvre et épouse le mouvement punk à Londres, où elle invente une voix rock étalon pour les femmes. On est en 1982 et Nina Hagen, finalement, est aussi une digne héritière de Bessie Smith.
Come on in, I differ at you, that you will soon be honey.
Nina Hagen, digne héritière de Bessie Smith par le prisme de Janis Joplin et du rock avec ce Smack Jack, on est en 82. Évidemment, ce titre, cette manière de chanter va inspirer toute une génération de chanteuses chez qui on peut reconnaître des types d'emprunts. Cela va évidemment de Catherine Ringer à Pink en passant par Gwen Stefani. Ce qui est intéressant, c'est que la même année exactement de l'autre côté de l'Atlantique, il y a une très jeune femme, Lolita Shanté Gooden, qui marche elle aussi dans les pas de Bessie Smith, qui veut dire sa colère. Comme Nina Hagen, elle s'affranchit presque pour la première fois d'une certaine manière de la nécessité mélodique et du blues ne garde presque que le flow. Elle a 20 ans, on est dans le Queens, banlieue de New York. Elle est la première femme à mettre le pied, ou plutôt à mettre la voix, sous le nom de Roxane Shanté, dans un genre qui va durablement changer, marquer la voix des femmes, le hip-hop. Regretter qu'on ait oublié Roxane Shanté comme beaucoup d'autres pionnières du rap, alors qu'évidemment toute une famille de rappeuses en sont les héritières directes. Nicki Minaj et Cardi B, qui en ce moment règnent sur les charts américains, sont à la recherche, quelle que soit leur tessiture d'ailleurs, de ce presque son de klaxon que porte la voix de Roxane Shanté. Si on a oublié, eh bien c'est que l'avènement du rap s'est longtemps fait sans les femmes. Car en même temps que les voix d'hommes s'appropriaient le flow, et encore une fois la parole, la capacité à parler, on a vu naître l'avènement de ce qu'on appelait les chanteuses à voix, dignes héritières, peut-être d'Ella Fitzgerald et de Mina pour la virtuosité, mais aussi tout autant d'Yvonne Printemps, incarnant à nouveau une hyper-féminité qu'on pourrait presque qualifier de régressive, car en réalité, leur grande particularité, c'est qu'elle recommence, elle aussi, à pousser les aigus. Or, pousser les aigus, c'est envoyer un message subliminal. L'explication, elle est hormonale. La voix des femmes avec des niveaux d'œstrogènes plus élevés tire naturellement vers les aigus. Pire, les femmes qui ont les voix les plus aiguës sont aussi souvent les plus petites, les plus fragiles. Inconsciemment, plus une voix de femme est aiguë, plus elle dit, d'une part, qu'elle est fertile, d'autre part, qu'elle est vulnérable. Le fait d'ailleurs qu'on se mette à utiliser à nouveau le mot de diva pour qualifier les rivalités entre Whitney Houston et Mariah Carey, ou encore Lara Fabian et Céline Dion chez les francophones, le dit assez bien, on est presque revenu à la case départ.
Qu'est-ce que je chante? C'est quoi que je chante? Dis-moi une chanson m'a chantée.
Puis tu chantais un truc de Creedence hier, sans arrêt, là.
Oh, c'était quoi? C'est quoi, non?
I wanna know
have you ever seen the rain? 'Cause I wanna know have you ever seen the rain? Je connais pas les paroles. I don't know before the rain. Je sais pas. Non mais là, vous me faites faire n'importe quoi.
Ouais, mais même la perceuse s'est arrêtée. Je sais pas si vous avez remarqué.
Ouais, j'espère qu'ils nous ont entendus.
Une très jeune Céline Dion en 1995 qui pousse la chansonnette pour le plus grand plaisir de France 2, je crois, en compagnie de Jean-Jacques Goldman. Mais après une période d'idolâtrie, les chanteuses à voix ont posé leur marque mais ont assez vite fatigué. Et en réaction a surgi dans les années qui suivent, dans la musique pop mainstream, un phénomène déjà notable dans la voix parlée depuis le début des années 2000 qui a contaminé la voix chantée. C'est ce qu'on appelle le « vocal fry ». Les jeunes femmes américaines comme Kim Kardashian en sont des exemples vivants. Qu'est-ce que le vocal fry ? C'est le résultat naturel d'un abaissement du ton. Les cordes vocales vibrent de plus en plus doucement et à un certain moment, elles se relâchent. Les vibrations deviennent plus souples et irrégulières. En gros, les femmes abaissent leur ton et elles en arrivent à avoir une voix de fricture. Selon la sociolinguistique Uko Patricia Yuasa, cette inflexion vocale donnerait le sentiment aux personnes qui l'utilisent eh bien qu'elles sont plus ambitieuses, plus sûres d'elles-mêmes. Les femmes qui ont une voix naturellement plus aiguë que les hommes eh bien essaieraient en réalité de sonner plus masculin. On retrouve massivement le vocal fry chez Ariana Grande par exemple, qui pourtant, quand elle était toute jeune, a été lancée par Disney Channel comme une digne héritière des chanteuses à voix. Mais la première star de la pop à en faire un usage quasi constant dans ses chansons, c'était évidemment Britney Spears, dont la mise sous tutelle pendant près de 10 ans nous rappelle une chose, les femmes, même puissantes, surtout puissantes, ont toujours autant de mal à être prises au sérieux.
If I step on the scene, or sneak away into the Philippines, they still gon' put pictures of my derriere in the magazine. You want a piece of me?
You want a piece of me?
I'm this bad media karma, another day, another drama. Guess I can't see the harm in working and being a mom. And with a kid on my arm, I'm still an exception. And you want a piece of me?
You want a piece of me?
This is, oh my god, that Britney shameless.
You want a piece of me?
This is extra, extra, it's just in.
You want a piece of me?
This is, she's too big, now she's too thin.
You want a piece of me?
You want a piece of me, vous voulez un morceau de moi, chanson manifeste, chanson malheureusement prémonitoire de Britney Spears. Emblématique aussi, si on l'écoute, d'une autre forme de la voix qui trouve son accomplissement dans les années 2000. Sur ce titre, comme à peu près sur tous ceux qui suivent, la voix de Spears est très lourdement synthétisée et sa hauteur change constamment. Britney Spears est ici très emblématique d'une tendance qui s'est imposée au cours des 10 dernières années, la robotisation des voix tous azimuts, popularisée par Cher dans Do You Believe qu'on ne vous fera pas l'affront de diffuser pour finir cette série musicale. L'autotune mais aussi le vocodeur ont envahi absolument toutes les ondes. Mais finalement, relativement peu, les voix des femmes, c'est intéressant, à l'exception notable des stars de la pop comme Madonna dans Music, Jennifer Lopez, de manière très récurrente, qui sont deux artistes qui, plus que la virtuosité vocale, revendiquent la capacité à créer des sons nouveaux. Mais finalement, le contact charnel avec ces fameuses cordes vocales, ces plis vocaux, eh bien, cette incarnation reste dominante, prédominante et plus importante chez les femmes, qui, contrairement à des Jules ou des Drake, ne peuvent pas se permettre de robotiser leur voix sur l'intégralité d'une chanson. Il y a cette nécessité d'entendre la voix organique chez les femmes. Et quand elles s'en servent, les chanteuses de 2021 utilisent le vocodeur en faisant bon usage, c'est-à-dire pour signifier à quel point leur voix seule reste sublime.
Campo Santo, no
sé que tienen las flores, llorona las flores del campo santo, que cuando la mueve el viento, llorona parece que están llorando, que cuando la mueve
pas terminer cette série sur la métamorphose des voix, sur deux voix qui comptent, celle de l'espagnole Rosalía et de la très jeune Billie Eilish. Toutes les deux rendent hommage à la fois aux voix susurrées de Françoise Hardy, à la maîtrise virtuose de Mina, et parfois, c'est le cas pour Billie Eilish qu'on entend actuellement, au vocal fry de Britney Spears, mais utilisé avec beaucoup d'aisance. C'est la fin de cette série musicale, merci de l'avoir écoutée. Elle a été réalisée par Louise André, préparée avec le concours précieux de Pascaline Bonnet et de l'équipe de la discothèque de Radio France, emmenée par Antoine Villoz. À la mise en onde d'aujourd'hui, c'était Valentin Bobinet.
No, I'll be there. Can you let it go? Can you let it go? No, I'll be there. Can you let it go? No, I'll be there. No, I'll be there. Can you let it go?
Demain, nous continuons d'explorer les timbres de voix. On s'intéresse cette fois-ci aux hommes. Émission Grain de Crooner.